Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation, Belinda Bosuma.
Au moins 6 militaires tués, 3 autres blessés et leurs armes et munitions emportées. Bilan des attaques ciblées des groupes armés contre les services de sécurité cette semaine, notamment à Masumbuko en Ituri. La population s'est dit inquiète. Le porte-parole de l'armée rassure, ces assaillants seront traqués. Des corps en décomposition signalés à la morgue de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium. Nous sommes dans la commune de Selembao à Kinshasa. Du coup, une odeur nauséabonde indispose le voisinage. Il s'agit des corps non réclamés en attente d'évacuation, expliquent des sources sur place. Et puis, ce matin, nous recevons le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis, fait le point sur le plan de réponse humanitaire 2025. Il parle également des conséquences de la suspension des actions de l'USAID sur la RDC notamment. À tous et à toutes, bonjour. En Ituri, 6 militaires tués, 3 autres blessés et leurs armes et munitions emportées par les groupes armés locaux. C'est le bilan des attaques ciblées des groupes armés contre les services de sécurité en l'espace de 4 jours. C'est notamment à Masumbuko, dans le territoire de Djougou. La dernière attaque mercredi attribuée à la milice Zaïre a fait 2 morts du côté de l'armée et un policier pris en otage avant d'être relâché quelques heures après vers Nyamamba, à la plaine du lac Albert. Des sources locales rapporte que leurs armes et munitions ont été emportées par ces hommes armés. La population s'est dit inquiète. Le porte-parole de l'armée rassure que les effectifs des FARDC sont renforcés pour traquer ces assaillants qui ont déjà subi des lourdes pertes. On écoute le lieutenant Jules Ngongo.
Les forces armées ravivent leurs outils de défense et les désarmer en menant les opérations comme nous l'avons mené à Lodjo, à Galaï. Les ennemis de la paix s'attaquent à l'armée. Nous allons continuer à les pourchasser, à les poursuivre. Aujourd'hui, à Nyamamba, le groupe armé Zaïre a attaqué l'une de nos positions et nous allons les désarmer pour ramener l'autorité de l'État là où elle est menacée, sécuriser la population et leurs biens. Nous sommes renforcés en hommes comme en matériel pour aller traquer ceux-là qui ont tenté de s'attaquer à l'une de nos positions. Nous sommes dans les opérations. Autant de miliciens ont été neutralisés. Autant de miliciens, quel que soit du côté Zaïre ou Kodeko, ils ont été neutralisés. Les armes ont été récupérées. Plus de 40 armes.
Notez qu'un agent de service de renseignement a été également pris en otage lundi dernier au village de Gobi, puis relâché moyennant le paiement d'une rançon. Restons en Ituri. Les activistes des droits humains et membres du comité de suivi de l'accord Lesenade pour la cohabitation pacifique dans le sud du territoire d'Irumu demandent au gouvernement et ses partenaires d'appuyer les jeunes issus des différents groupes armés qui ont choisi d'adhérer au processus de paix et de cesser les violences. Selon eux, cet appui va permettre d'occuper ces jeunes et faciliter leur réinsertion sociale afin qu'ils ne puissent pas rejoindre leurs anciens groupes armés, mais aussi contribuer au développement de leurs entités respectives. L'un de ces activistes s'exprime au micro de Ézéchiel Mouzalia.
Qu'il faudrait qu'on voie comment appuyer ces jeunes, qu'on puisse les encadrer. Si on ne parvient pas à encadrer ces groupes armés, c'est encore un bon retardement pour le territoire du Rumu, parce que dans la province de l'Ituri, c'est le territoire du Rumu qui respire un air de la paix après tous ces événements que nous avons pu passer dans l'état jadis, quand il y avait au moins les turbulences des groupes interethniques. Les jeunes et les communautés ont compris que l'ère n'est plus à la guerre, c'est le moment où nous devons consolider ces acquis et cohabiter ensemble. Il faudrait qu'on puisse amener des projets qui vont occuper ces jeunes. Si par exemple on peut venir avec des ateliers, des menuiseries, je crois bien que nous avons des jeunes courageux, vont emporter les pas. On va oublier facilement encore à reprendre les armes pour que nous puissions encore nous entretuer.
Vous le savez, la situation actuelle du pays inquiète plus d'un Congolais. Au Maniema, par exemple, le chargé des programmes de la Fondation Malaika Unas Bel, membre du Conseil provincial des jeunes, appelle à l'unité de tous les jeunes et au président de la République de faire tout son mieux pour que la paix soit rétablie en privilégiant le dialogue. Daouda Selemani le dit au micro de Florence Kizalunga.
Étant que jeune de la province du Maniema, je dois d'abord appeler tous les jeunes à être unis, parce que dans l'unité, nous allons faire quelque chose pour lutter contre cette crise qui nous menace. Vous savez que Nord Kivu est déjà menacé, Sud Kivu, nous du Maniema, nous devons être très vigilants, unis, pour défendre notre province. C'est un problème déjà, surtout que vous savez, ici, il y a manque d'emploi. Nous devons toujours demander au président de la République de fournir des efforts pour trouver une solution. La solution, selon moi, c'est réunir toutes les couches pour parler et sur la paix, surtout les dialogues, ça va nous aider à trouver une solution durable. Ceux qui s'opposent, ce sont des ennemis de notre pays, parce que même dans nos villages, pour trouver une solution, il faut être ensemble, madame. Donc ceux qui s'opposent au dialogue, ce sont des ennemis de notre pays.
Par ailleurs, la guerre dans l'est de la RDC entraîne des conséquences fâcheuses sur la vie de l'agriculteur. Téné, plus de 40 tonnes de semences de blé sont détruites dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. D'autres cultures en phase de récolte sur une dizaine d'hectares ont été également détruites. Les champs agricoles transformés en champs de bataille, ce qui constitue une perte incalculable pour les agriculteurs de cette filière qui était dans sa phase de relance expérimentale dans cette région. Grâce à Mzati nous fait le point.
La population de Lubero, constituée à plus de 85% des agriculteurs, traverse un moment difficile de relance agricole. Nous sommes en période de récolte et au même moment au début de la saison culturelle. Jusqu'à présent, le climat sécuritaire ne permet plus de faire les champs. Nous venons de perdre la saison et nous allons perdre la semence, s'alarme un agriculteur. Cette situation entraînera la disette totale et la malnutrition aiguë. Un des responsables de la coopérative de production et de transformation des produits agricoles alerte le gouvernement congolais ainsi que ses partenaires œuvrant dans les secteurs agricoles qu'au même moment qu'on est en train de se battre contre l'ennemi, on doit aussi lutter contre la guerre de la famine en sécurisant les zones cultivables et les agriculteurs.
Autre nouvelle, je vous le disais en titre, ici à Kinshasa, une odeur nauséabonde indispose à partir de la morgue de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, dans la commune de Selimbao. Même le voisinage immédiat en est affecté. Des sources sur place affirment qu'il s'agit des corps non réclamés en décomposition et qui traînent en attente d'évacuation vers la morgue centrale. Détail avec Mudumbi Benjamin.
D'après des sources proches de l'administration de la morgue, il s'agit de 208 corps des indigents et aussi de certains détenus de la prison centrale de Makala. Ceci qui ressort d'un rapport établi par le médecin directeur de cet hôpital le 20 février sur demande de la commune qui s'est préoccupée déjà de cette situation. C'est ce que font savoir d'autres sources communales. Dans ces documents, le médecin qui est malheureusement décédé le lendemain affirme avoir saisi le ministère de la Santé pour lui en faire part et aussi pour qu'il prenne des dispositions adéquates pour leur transfert à la morgue centrale, donc celle de l'hôpital général de référence dit Kinshasa. Nous sommes en attente de la réponse des autorités, a ajouté le médecin dans son rapport. Nous sommes conscients du problème. Nous nous y sommes rendus, nous dit le bourgmestre de Selimbao. Mais dans ces dossiers, la commune ne peut rien faire. Cela dépasse largement ses compétences. Nous, de notre côté, nous demandons à notre autorité de tutelle, le ministère de l'Intérieur, de s'impliquer avec celui de la Santé pour une solution rapide. La situation est insupportable. D'après le bourgmestre, la morgue fonctionne normalement, mais il y a des problèmes liés aux coupures d'électricité et aux trop pleins de corps qui continuent de traîner.
Province du Maniema, 7 zones de santé notifient des cas suspects de choléra. Selon le ministre provincial de la Santé, actuellement, la province a déjà notifié 213 cas et 23 décès. Docteur Kingombe appelle la population à la vigilance et à s'y rendre à l'hôpital hôpital général et au centre Afia Djinjema en cas de contamination. Docteur Kingombe Chomba est au micro de Florence Kizalunga.
En fait, depuis qu'on a notifié les cas suspects de choléra dans la province, il y a la zone santé de Kasongo, Kampene, Kunda, Kailo, Kindu même, la Lunguli et la zone santé de Ferekenyi qui ont notifié les cas suspects de choléra. En fait, au gouvernement provincial, nous avons d'abord fait un rapport à la hiérarchie, nous avons fait appel à la MSF Belgique qui est déjà dans nos murs et ils sont en train de prélever les échantillons. Ils ont fait les tests de diagnostic rapide. COVID et il y a des tests qui ont révélé positifs. Bien sûr, on a envoyé d'autres échantillons à l'INRB et que là, c'est mal positif. À ce moment-là, il y aura une intervention rapide qui viendra dans la province. Ce que je peux conseiller à la population de ne pas négliger cette maladie, c'est une maladie contagieuse et dès que dans une famille, il y a des cas suspects comme ça, on les amène à l'hôpital général. Si pas à l'hôpital général, c'est au centre médical Afianjema pour une bonne prise en charge. Depuis le 21 janvier jusqu'à ce jour, nous sommes à 213 cas et 23 décès.
Direction la province de la Tchopo, le ministre provincial de transport et voies de communication palpe du doigt les réalités des compagnies aériennes et agences des fret opérationnelles à Kisangani. Ghislain Mogenya effectue des visites dans des différentes agences depuis quelques jours. Sur les 13 compagnies et agences inventoriées, il en a déjà visité 6. Son constat est que ces compagnies s'acquittent de leurs obligations fiscales, mais elles se disent asphyxiées au regard de la situation sécuritaire actuelle. En outre, certaines agences sont dépourvues de leur propre siège. Ghislain Mogenya, ministre provincial de transport dans la Tchopo, s'exprime au micro de Jacques Moukonkole.
Compte tenu de la situation actuelle, il y a ceux qui sont bien installés, ils ont des sièges, mais certains n'ont même pas des locaux. Ils se camouflent derrière les autres compagnies. Alors, mon appel est que chacun puisse y avoir son siège, ou s'il y a une activité, ou si nous organisons une descente, que nous les trouvions au niveau de son bureau. Et c'est ce qui est un peu demandé. Mais ce qui m'a aussi intéressé, c'est lorsque nous avons eu à prendre langue avec le responsable des Congo Airways. Il a essayé de nous retracer certaines difficultés qui sont en train de traverser, notamment dans le cadre de notre nomenclature par rapport aux frettes qui sont d'envoyer les Fumbo à Kinshasa. C'est qu'on leur fait payer plus que ce qui devrait être payé. Alors, ils nous ont demandé aussi de revoir la nomenclature. D'autres compagnies se sont plaintes que le fait qu'il n'y a plus mouvement vers Goma, ça constitue pour eux déjà une difficulté.
Et concernant la demande relative à la révisitation de la nomenclature des taxes, le ministre des Transports indique que cela relève de l'Assemblée provinciale, autorité budgétaire. Toutefois, il promet d'en faire part au gouverneur de la Tchopo. Et puis, plus de 558 millions d'euros ont été octroyés entre fin 2024 dans le cadre du protocole d'entente pour un partenariat stratégique en matière de croissance durable et inclusive entre la RDC et l'AFD, l'Agence française de développement. Lors d'un déjeuner de presse tenu mardi à Kinshasa, la coordination de l'AFD et l'ambassadeur français accrédité à Kinshasa ont mis à disposition des médias toutes ces données. Ces fonds ont permis l'exécution des divers projets, notamment dans le secteur de la sécurité alimentaire, dans 4 provinces voisines de Kinshasa, l'électrification urbaine à Kabinda, dans la Lomami, l'éducation avec la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Le secteur de la santé a aussi bénéficié d'un apport substantiel. Safia Ibrahim, coordonnatrice de l'Agence française de développement, donne ici l'illustration d'un succès pour tous ces divers projets. Elle est au micro de Billy Van Lutumba.
Mais je peux vous dire qu'en 4 ans, les projets dont je suis fière, parce que nos équipes, les équipes du ministère de la Santé également de Congolais ont bien travaillé. On avait mobilisé une entreprise française, on avait mobilisé des ONG congolaises, des ONG françaises. C'est le centre de santé de maternité de Kinshasa. C'est un projet qui me touche particulièrement. C'est un projet qui permet de montrer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire apporter de l'excellence pour les plus vulnérables. C'est pas à vous que je vais apprendre le quartier Changou, Chine populaire. C'est un des quartiers le plus vulnérable de la province de Kinshasa. C'est un des quartiers où vous avez un taux de pauvreté qui est très élevé. Et pourtant, c'est là où vous trouvez le centre de santé de maternité le plus haut, avec des standards, des équipements de standards le plus haut niveau. C'est 3000 accouchements et depuis qu'on a réhabilité, qu'on a rénové, qu'on a équipé, formé personnel, aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés de la province, il n'y a pas de la mortalité constatée, alors que c'était un taux qui était très élevé de taux de mortalité à l'accouchement.
Actualité internationale. Il y a eu une légère amélioration de l'état de santé du souverain pontife, rapporte le Vatican. Atteint d'une double pneumonie, le pape François a repris le travail après avoir reçu l'Eucharistie dans la matinée de jeudi. Les médecins indiquent toutefois que son pronostic reste réservé. La légère insuffisance rénale détectée il y a quelques jours s'est résorbée et le pape François continue à recevoir une psychothérapie respiratoire, indique le Vatican.
L'invité.
Nous recevons le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. Il fait le point sur le plan de réponse humanitaire 2025. Il parle également des conséquences de la suspension des actions de l'USAID cette année sur la RDC et ailleurs. Bruno Lemarquis s'entretient avec Jeff Opela.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Nous venons d'assister au lancement du plan des réponses humanitaires 2025 en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de cette activité?
Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, comme chaque année, à peu près chaque mois de février, chaque année, on lance le plan de réponse humanitaire. Cette année, il a un nouveau titre. C'est le plan de réponse aux besoins humanitaires. Les grands chiffres à retenir pour cette année, c'est qu'il y a 25 millions de personnes, de Congolais, de Congolaises qui sont dans le besoin, qui ont des grandes vulnérabilités dans le pays, notamment tous les gens qui souffrent d'insécurité alimentaire. C'est le plus grand nombre de personnes au monde qui souffrent d'insécurité alimentaire. Sur ces 25 millions de personnes, nous avons fait un travail de priorisation et donc le plan de réponse vise à apporter une assistance à 11 millions de personnes. Les 11 millions de personnes les plus vulnérables, la plupart d'entre elles vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ces 11 millions, on compte tous les déplacés internes, qui, les derniers chiffres que nous avons eus, c'est 7,8 millions de personnes déplacées internes. Parmi les 11 millions, il y a aussi des personnes qui sont victimes des catastrophes, des inondations, des glissements de terrain, etc. Ces 11 millions de personnes vivent surtout donc dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika. Le montant total financier nécessaire pour répondre aux besoins de ces 11 millions de personnes s'élève à 2,5 milliards de dollars pour 2025. C'est à peu près le même montant que pour 2024. Juste pour dire qu'en 2024, nous avions réussi à mobiliser de la part de la communauté internationale le montant le plus haut jamais mobilisé dans cette crise de plus de 30 ans. 1,3 milliard de dollars avaient été mobilisés en 2024, ce qui avait permis d'apporter une assistance, soit complète, soit partielle, à 7,1 millions de personnes. Voilà, donc ça, c'est les grands chiffres de ce plan.
Monsieur Bruno Lemarquis, vous avez loué l'apport de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID en sigle, mais nous savons aussi que l'USAID a suspendu ses actions dans les mondes dont fait partie la République démocratique du Congo. Et vous avez dit en 2024, cette Agence des États-Unis pour le développement international a contribué à elle-même à hauteur des 70% pour la réponse humanitaire 2024. Et maintenant que cette agence n'est plus là, comment comptez-vous vous y prendre?
Alors, ça va être une année particulièrement difficile pour un certain nombre de raisons. C'est pour ça que nous avons adopté le mot de polycrise. C'est-à-dire, c'est pas une crise compliquée, c'est plusieurs crises en une. Et la question des financements, c'est vraiment une crise vraiment importante pour 2025. Il y a un certain nombre de pays, avant de parler des États-Unis, il y a un certain nombre de pays, États membres, pays donateurs qui ont également annoncé des baisses de leur budget d'aide publique au développement et l'aide humanitaire rentre dans l'aide publique au développement. Donc c'est une série de mauvaises nouvelles au niveau des financements. En ce qui concerne l'aide des États-Unis d'Amérique, en effet, en 2024, leur plus gros programme d'aide humanitaire au monde était la RDC, avant l'Ukraine, avant le Soudan, avant d'autres pays en crise, et ils avaient financé 910 millions de dollars sur les 1,3 millions de dollars que nous avions mobilisés, c'est-à-dire 70%. Non seulement c'était la plus grande aide américaine au monde du point de vue humanitaire, mais c'était également le pays où nous étions le plus dépendants de l'aide américaine, avant tous les autres pays, à 70%. C'est-à-dire que cette suspension des fonds américains a un impact extrêmement, extrêmement important sur la RDC. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer par la suite, si certains de ces financements vont être réautorisés. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que beaucoup de partenaires sont impactés, beaucoup de partenaires sont en attente d'une réponse, si les activités vont pouvoir reprendre ou non. Certains partenaires n'ont pas les reins assez solides pour tenir en attendant cette réponse. Donc il y a des partenaires qui doivent licencier du personnel, etc. Voilà, ça a des impacts extrêmement importants et on commence à avoir certaines analyses plus fines, certains chiffres que nous partagerons quand tout sera prêt. Mais par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine du VIH-SIDA, dans le domaine de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles, on voit déjà l'impact sur des vies humaines, oui, sur des vies humaines de ces baisses de financement, parce que de nombreux services doivent s'arrêter.
Monsieur Bruno Le Marquis, je rappelle que vous êtes au coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo. Radio Okapi, vrai merci.
Merci beaucoup et toujours merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Bruno Le Marquis répondait aux questions de Jeff Opela. Par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.